Je me souviens. Trois ans plus tôt. Paris, novembre 2010. Des trompes d'eau, des hallebardes. Prends à droite, Seymour, c'est là, rue Saint-Thomas-d'Aquin. Les va-et-vient continus des essuie-glaces peinent à chasser les torrents de pluie qui s'abattent sur Paris. Malgré les coups de balai des lames en caoutchouc, le rideau translucide se reconstitue presque immédiatement sur le pare-brise. Notre voiture banalisée quitte le boulevard Saint-Germain pour s'enfoncer dans l'étroite artère qui débouche sur la place de l'église. Le ciel est noir. Depuis la veille au soir, l'orage noie tout. Devant nous, le paysage semble se liquéfier. Le fronton de l'église a disparu dans les nuages. Les ornements et les bas-reliefs s'estompent dans la brume. Seuls les anges de pierre, abrités dans les écoinçons, se distinguent encore sous le déluge. Seymour fait le tour de la placette et se gare sur une zone de livraison, juste en face du cabinet gynécologique. « Tu crois que tu en as pour longtemps ?»« Pas plus de 20 minutes, » promets-je. « La gynéco m'a confirmé le rendez-vous par mail. Je l'ai prévenu que j'étais à la bourre. » Il vérifie ses messages sur l'écran de son téléphone. « Écoute, il y a une brasserie un peu plus haut. » Je vais m'acheter un sandwich en t'attendant et j'appellerai le service pour savoir où en sont Savignon et Cruchy dans leur interrogatoire. Ok, balance-moi un SMS si tu as du nouveau. À tout à l'heure, et merci de m'avoir accompagné, dis-je en claquant la porte derrière moi. L'averse me prend de plein fouet. Je soulève mon blouson au-dessus de ma tête pour m'abriter de la pluie et parcours au pas de course les 10 mètres qui séparent la voiture du cabinet médical. La secrétaire met presque une minute à m'ouvrir. Lorsque je pénètre enfin dans le hall, je constate qu'elle est au téléphone. Elle m'adresse un petit signe pour s'excuser et m'oriente vers la salle d'attente. Je pousse la porte de la pièce et m'écroule dans l'un des fauteuils de cuir. Depuis le matin, je vis un cauchemar dû à une sale infection urinaire qui s'est déclarée brutalement. Un véritable calvaire. Des douleurs dans le bas-ventre, l'envie de pisser qui vous prend toutes les 5 minutes, des brûlures insoutenables à chaque miction et même la présence flippante de sang dans les urines. Pour ne rien arranger, on peut dire que ça tombe vraiment un mauvais jour. Ces dernières 24 heures, mon groupe a été sur tous les fronts. On rame pour obtenir les aveux d'un meurtrier contre lequel on n'a pas de preuves solides et on vient d'être saisi d'une nouvelle affaire, le meurtre d'une femme retrouvée assassinée chez elle dans un immeuble bourgeois de la rue de la Faisanderie dans le 16e arrondissement. Une jeune institutrice, sauvagement étranglée avec une paire de bas. Il est 15h, Seymour et moi sommes sur la scène de crime depuis 7h du matin. On s'est tapé nous-mêmes l'enquête de voisinage. Je n'ai rien mangé, j'ai la nausée et la sensation d'uriner des lames de rasoir. J'attrape le poudrier qui traîne toujours dans mon sac et face au miroir, je tente de remettre un peu d'ordre dans ma coiffure. J'ai une tête de zombie. Mes vêtements sont trempés et j'ai l'impression de sentir le chien mouillé. Je respire profondément pour me rassurer. Ce n'est pas la première fois que je souffre de ces douleurs. Même si c'est affreusement pénible, je sais que ça se soigne bien. Une dose d'antibio, et un jour plus tard, tous les symptômes auront disparu. J'ai fait le siège de la pharmacie en face de chez moi, mais le préparateur n'a rien voulu me donner sans une ordonnance. « Mademoiselle Schaeffer ?» Une voix d'homme me fait lever la tête de mon poudrier vers une blouse blanche. À la place de ma gynéco se tient un beau mec à la peau mate, le visage carré, encadré de cheveux blonds, ondulés et éclairé par des yeux rieurs. « Je suis le docteur Paul Mallory », se présente-t-il en ajustant ses lunettes d'écaille. « Mais j'ai rendez-vous avec le docteur Poncelet. Ma consœur est en vacances. Elle a dû vous prévenir que je la remplaçais. » Je m'énerve. « Pas du tout, au contraire, elle m'a confirmé notre rendez-vous par mail. » Je sors mon téléphone et je cherche le courrier sur mon écran comme preuve. En le relisant, je m'aperçois que le type a raison. Je n'avais fait que parcourir le message, y notant la confirmation du rendez-vous, mais pas l'annonce de ses congés. Merde. Entrez, je vous en prie, propose-t-il d'une voix douce. Décontenancé, j'hésite. Je connais trop les hommes pour avoir jamais voulu en avoir un comme gynécologue. Il m'a toujours semblé évident qu'une femme était plus à même de comprendre une autre femme. Question de psychologie, de sensibilité, d'intimité. Tout en restant sur mes gardes, je le suis néanmoins dans le cabinet, bien décidé à ne pas faire traîner l'entretien. « Très bien, dis-je. Je vais être direct, docteur, j'ai seulement besoin d'un antibiotique pour soigner une cystite. Généralement, le docteur Poncelet me donne un antibactérien monodose, le... » Il me regarde en fronçant les sourcils et me coupe dans ma tirade. « Pardonnez-moi, mais vous ne voulez quand même pas rédiger l'ordonnance à ma place, n'est-ce pas ? Vous comprendrez que je ne peux pas vous prescrire un antibiotique sans vous examiner. » Je tente de contenir ma colère, mais j'ai compris que les choses allaient être plus compliquées que prévu. Je vous dis que j'ai une cystite chronique, et il n'y a pas d'autre diagnostic à faire. Sans aucun doute, mademoiselle, mais ici, le médecin, c'est moi. Effectivement, je ne suis pas médecin, je suis flic et j'ai du travail par-dessus la tête. Alors ne me faites pas perdre mon temps avec un test à la con qui va prendre des plombes. C'est pourtant ce qui va se passer, dit-il en me tendant une bandelette urinaire. Et je vais vous prescrire également un examen cytobactériologique à faire dans un laboratoire. Vous êtes buté, ma parole ! Filez-moi ces antibiotiques qu'on en finisse ! Écoutez, soyez raisonnable et cessez de vous comporter comme une toxicomane. Il n'y a pas que les antibiotiques dans la vie. Soudain, je me sens à la fois lasse et idiote. Un nouvel élancement me tiraille le bas du ventre. La fatigue, accumulée depuis que j'ai intégré la brigade criminelle, remonte en moi comme la lave d'un volcan. Trop de nuits sans sommeil, trop de violence et d'horreur, trop de fantômes impossibles à chasser. Je me sens au bout du rouleau, vidé. J'ai besoin de soleil, d'un bain chaud, d'une nouvelle coupe de cheveux, d'une garde-robe plus féminine et de 2 semaines de vacances loin de Paris, loin de moi. Je regarde ce type, élégant, apprêté, serein. Son beau visage est reposé, son sourire est doux, sa moue charmante. Ses improbables cheveux blonds et bouclés m'exaspèrent. Même les petites rides autour de ses yeux sont craquantes. Et moi, je me sens moche et stupide. Une conne ridicule à lui parler de mes problèmes de vessie. « Est-ce que vous vous hydratez suffisamment d'ailleurs ? » reprend-il. « Savez-vous que la moitié des cystites peuvent être guéries simplement en buvant 2 litres d'eau par jour ?» Je ne l'écoute plus. C'est ma force. Mon découragement ne dure jamais très longtemps. Comme des flashs, des images explosent dans ma tête. Le cadavre de cette femme sur la scène de crime ce matin. Clara Mathurin, sauvagement étranglée avec un bas en nylon. Ses yeux révulsés, son visage figé dans l'effroi. Je n'ai pas le droit de perdre du temps. Pas le droit de me laisser distraire. Je dois coincer l'assassin avant qu'il ne risque de tuer de nouveau. « Et la phytothérapie ?» demande le beau blond. « Vous savez que les plantes peuvent être très utiles, notamment le jus de canneberge. » D'un mouvement aussi brusque que soudain, je passe derrière son bureau et détache une ordonnance vierge de son bloc. « Vous avez raison, je vais rédiger l'ordonnance moi-même. » Il est tellement stupéfait qu'il n'esquisse aucun geste pour m'en empêcher. Je tourne les talons et pars en claquant la porte. Paris, 10e arrondissement. 1 mois plus tard, décembre 2010. 7h du matin. L'Audi file à travers la nuit et débouche sur la place du colonel Fabien. Les lumières de la ville se reflètent sur l'imposante vague de béton et de verre du siège du Parti communiste. Il fait un froid polaire. Je pousse le chauffage à fond et m'engage dans le rond-point pour attraper la rue Louis-Blanc. J'allume la radio en traversant le canal Saint-Martin.
France Info, il est 7h, le journal vous est présenté par Bernard Thomasson. Bonjour Florence, bonjour à tous. En cette veille de Noël, ce sont encore les intempéries qui risquent de monopoliser l'actualité aujourd'hui. Météo France vient en effet de lancer une alerte orange, redoutant un important épisode neigeux qui devrait toucher Paris en fin de matinée. L'arrivée de la neige perturbera fortement la circulation en Île-de-France.
Putain de réveillon. Putain d'obligation familiale. Heureusement que Noël ne tombe qu'une fois par an. Mais pour moi, une fois par an, c'est encore trop. À cette heure matinale, Paris est préservé de la tempête qui s'annonce, mais le répit sera de courte durée. Je profite de la fluidité de la circulation pour passer en trombe devant la gare de l'Est et m'engage dans le boulevard Magenta, traversant à vive allure le 10e arrondissement du nord au sud. Je déteste ma mère, je déteste ma sœur, je déteste mon frère. Et je hais ces retrouvailles annuelles qui se transforment toujours en cauchemars. Bérénice, ma sœur cadette, habite à Londres, où elle tient une galerie d'art sur New Bond Street. Fabrice, l'aîné, travaille dans la finance à Singapour. Chaque année, avec conjoint et enfants, ils font une halte de 2 jours dans la villa de ma mère près de Bordeaux pour y passer Noël avant de s'envoler vers des destinations exotiques et ensoleillées. Les Maldives, l'île Maurice, les Caraïbes.
Bison Futé recommande ainsi fortement d'éviter de prendre sa voiture en région parisienne ainsi que dans les départements limitrophes de l'Ouest. Une précaution qui semble difficile à tenir en cette journée de réveillon. La préfecture se montre elle aussi très alarmiste, craignant que la neige ne laisse la place au verglas dès le début de soirée, lorsque les températures deviendront négatives.
Rue Réaumur, puis rue Beaubourg. Je traverse le marais par l'ouest et débouche devant la place de l'Hôtel de Ville qui ploie sous les illuminations. Au loin, la silhouette des 2 tours massives et de la flèche de Notre-Dame se découpe dans la nuit. Chaque année, à quelques variations près, c'est la même pièce de théâtre qui se joue pendant ces 2 jours. Ma mère va faire l'éloge de la réussite de Bérénice et de Fabrice, de leur choix de vie, de leur carrière. Elle va se pâmer devant leur mioche, vanter leur bonne éducation et leur réussite scolaire. Les conversations rouleront toujours sur les mêmes thèmes, l'immigration, le ras-le-bol fiscal, le French bashing. Pour elle, pour eux, je n'existe pas. Je ne suis pas des leurs. Je suis une sorte de garçon manqué, sans élégance, sans distinction, une ratée de fonctionnaire. Je suis la fille de mon père.
Les difficultés de circulation risquent de s'étendre à certaines lignes de métro et de RER. Même punition dans les airs. Aéroport de Paris voit se profiler une journée noire avec des milliers de passagers qui devraient se retrouver bloqués au sol. Ces fortes chutes de neige devraient en revanche préserver la vallée du Rhône ainsi que le pourtour méditerranéen. À Bordeaux, Toulouse et Marseille, les températures varieront entre 15 degrés et 18 degrés, tandis qu'à Nice et à Antibes, vous pourrez déjeuner en terrasse, le mercure flirtant en effet avec les 20 degrés.
Marre d'être jugé par ces cons. Marre de leurs remarques aussi prévisibles que récurrentes. Tu n'as toujours pas de mec ? Ah, tu n'es pas prêt d'être enceinte ? Pourquoi tu t'habilles comme un sac ? Pourquoi vis-tu encore comme une adolescente ? Marre de leurs repas végétariens pour garder la ligne et être en bonne santé. Leurs graines pour oiseaux, leurs quinoa dégueulasses, leurs galettes de tofu, leurs purées de chou-fleur. Je m'enfonce rue de la Coutellerie pour traverser les quais par le pont Notre-Dame. L'endroit est magique. À gauche, les bâtiments historiques de l'Hôtel-Dieu. À droite, la façade de la Conciergerie et le toit de la Tour de l'Horloge. Chacun de ces retours dans la maison familiale me donne l'impression de revenir 30 ans en arrière, réactive les blessures de l'enfance et les fractures de l'adolescence, fait ressurgir des conflits fratricides, ravive une solitude absolue. Chaque année, je me dis que c'est la dernière fois, et chaque année, je replonge, sans vraiment savoir pourquoi. Une part de moi me pousse à couper les ponts définitivement, mais l'autre donnerait tellement cher juste pour voir leur tête le jour où je me pointerai habillé en princesse avec un mec bien sous tout rapport. Rive gauche. Je file le long des quais, puis tourne à gauche rue des Saints-Pères. Je ralentis, allume mes feux de détresse et me gare à l'angle de la rue de Lille. Je claque la portière de ma voiture, enfile mon brassard orange d'intervention et sonne à l'interphone d'un bel immeuble récemment ravalé. Je laisse mon pouce appuyé sur le bouton pendant une 30aine de secondes. L'idée a germé dans ma tête en début de semaine et m'a demandé quelques recherches. Je sais que je suis en train de faire une folie, mais en avoir conscience n'est pas suffisant pour m'en dissuader.
« Oui, qu'est-ce que c'est ?»
demande une voix mal réveillée.
« Paul Mallory ? Police judiciaire, veuillez ouvrir, s'il vous plaît. »«
Hein ? Mais... »«
C'est la police, monsieur, ouvrez !»
L'un des lourds battants de l'entrée se débloque dans un clic. Je délaisse l'ascenseur et monte les escaliers 4 à 4 jusqu'au 3e étage où je tambourine à la porte.
« Ça va, ça va !»
L'homme qui m'ouvre est bien mon beau gynéco, mais ce matin, il n'emmène pas large. En caleçon et vieux t-shirt, les boucles blondes rebelles, le visage marqué par la surprise, la fatigue et l'inquiétude.
« Eh, mais je vous connais, vous êtes...
Capitaine Schaeffer, brigade criminelle. » Monsieur Mallory, je vous informe de votre placement en garde à vue à partir de maintenant, jeudi 24 décembre à 7h16 du matin. Vous avez le droit de...
Pardon, mais ça ne peut être qu'une erreur.
Quel est le motif, je vous prie ?
Faux et usage de faux. Veuillez me suivre, s'il vous plaît.
C'est une plaisanterie ?
Ne m'obligez pas à faire monter mes collègues, monsieur Mallory.
Je peux enfiler un pantalon et une chemise au moins ?
Faites vite alors, et prenez aussi une grosse veste, le chauffage étant dérangement dans nos locaux.
Pendant qu'il s'habille, je jette un coup d'œil à l'intérieur. L'appartement haussmannien a été transformé en une sorte d'atelier à la décoration épurée. On a abattu quelques cloisons, blanchi le parquet en point de Hongrie, mais conservé les deux cheminées de marbre et les moulures. Derrière une porte enveloppée dans un drap, j'aperçois une jeune femme rousse d'une vingtaine d'années qui me regarde avec des yeux ronds. La tente s'éternise.
« Grouillez-vous, Mallory ! »
criai-je en cognant contre la porte.
« Il ne faut pas 10 minutes pour enfiler un futal !»
Le médecin sort de la salle de bain tiré à 4 épingles. Il a indéniablement retrouvé de sa superbe et arbore une veste en tweed, un pantalon prince de Galles, un trench en gabardine et une paire de bottines cirées. Il a quelques mots pour rassurer sa rouquine et me suit dans l'escalier.
« Où sont vos collègues ?» demande-t-il une fois arrivé dans la rue. « Je suis seul. Je n'allais quand même pas mobiliser le GIGN pour vous tirer du lit. »«
Mais ce n'est pas une voiture de police, ça.
C'est une voiture banalisée. Ne faites pas d'histoire et montez à l'avant. »
Il hésite, puis s'assoit finalement à côté de moi. Je démarre et nous roulons en silence alors que le jour commence à se lever. Nous traversons le 6e et Montparnasse avant que Paul se décide à demander.
« Bon, sérieusement, c'est quoi ce cirque ? Vous savez que j'aurais pu porter plainte contre vous le mois dernier pour vol d'ordonnance médicale. Vous pouvez remercier ma consœur. C'est elle qui m'en a dissuadé en vous trouvant tout un tas de circonstances atténuantes. Pour tout vous dire, elle a même utilisé le mot « timbré ».
Moi aussi je me suis renseigné sur vous, Mallory, dis-je en sortant de ma poche des documents photocopiés.
Il déplie la liasse et commence à lire en fronçant les sourcils.
Qu'est-ce que c'est, au juste ?
Des preuves que vous avez établi de fausses attestations d'hébergement au bénéfice de 2 maliennes sans papier, afin qu'elles puissent déposer une demande de titre de séjour.
Il ne cherche pas à nier. Et alors ? La solidarité, l'humanité, ce sont des crimes ?
En droit, on appelle ça faux et usage de faux. C'est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Je pensais qu'on manquait de place en prison. Et depuis quand la brigade criminelle s'occupe-t-elle de ce genre d'affaires ?
On n'est plus très loin de Montrouge. Je coupe les maréchaux, prends un bout de périph, puis l'A6 pour rejoindre l'Aquitaine, l'autoroute qui relie Paris à Bordeaux. Lorsqu'il aperçoit l'échangeur de Vissou, Paul commence vraiment à s'inquiéter.
« Mais où me conduisez-vous au juste ?»«
À Bordeaux, je suis sûr que vous aimez le vin. »«
Non, vous n'êtes pas sérieuse. »«
On va passer le réveillon chez ma mère. » « Vous serez très bien reçu, vous verrez. »
Il se retourne, regarde si on est suivi, tente une plaisanterie pour se rassurer.
« J'ai trouvé, il y a une caméra dans la voiture. Vous avez un programme de caméra cachée chez des flics, c'est ça ?»
Tout en continuant à rouler, je prends quelques minutes pour lui expliquer crânement le marchandage que j'ai derrière la tête. Je laisse tomber son histoire de faux certificat d'hébergement et, en échange, il accepte de se faire passer pour mon fiancé le temps du réveillon. Pendant de longues secondes, il reste silencieux et ne me lâche pas des yeux. Il est d'abord totalement incrédule jusqu'à ce qu'il se rende compte. « Oh mon Dieu, le pire c'est que vous ne plaisantez pas, n'est-ce pas ? Vous avez vraiment monté tout ce traquenard parce que vous n'avez pas le courage d'assumer vos choix de vie devant votre famille ? Mazette ! Ce n'est pas d'un gynéco que vous avez besoin, c'est d'un psychanalyste. »
J'encaisse l'attaque. Et après quelques minutes de silence, je reviens sur terre.
Il a raison.
Bien sûr.
Je ne suis qu'une lâche. Et puis je m'attendais à quoi, au juste ? À ce que ça l'amuse de participer à mon petit jeu de rôle ? Tout à coup, je me sens la reine des gourdes. C'est ma force et ma faiblesse. Écoutez mon instinct plus que ma raison. C'est à ça que je dois d'avoir résolu certaines enquêtes difficiles qui m'ont permis d'intégrer la crime à 34 ans. Mais parfois, mes intuitions tombent à côté et me font dérailler. L'idée de présenter ce type à ma famille me paraît à présent aussi saugrenue qu'inappropriée.
Rouge de honte, je capitule.
Vous avez raison, je suis désolé, je vais faire demi-tour et vous ramener chez vous.
Arrêtez-vous d'abord à la prochaine station-service. Votre réservoir est presque vide.